Avant d'ouvrir la parole, je vous invite à la prière pour que le Seigneur ouvre vraiment nos cœurs, d'abord le remercier pour sa parole et ensuite qu'il ouvre nos cœurs pour l'écouter avec toute l'attention qu'il espère et qu'il attend. Seigneur, sois remercié pour ta parole. Sans elle, où trouver la lumière pour éclairer nos routes? Sois remercié pour tous ceux que tu as inspirés et qui l'ont écrite, conscient de dire l'ineffable. Merci à tous ceux qui l'ont fidèlement recopiée, traduite, pour qu'elle parvienne jusqu'à nous. Nous la recevons comme un cadeau inestimable. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Comme annoncé, nous allons découvrir quatre personnages, quatre personnes, quatre amis, et puis qui vont quand même faire un peu des dégâts parce qu'ils vont ouvrir une toiture. Ce texte se trouve dans l'évangile de Marc, il est aussi dans Matthieu, il est aussi dans Luc, mais je me suis arrêté à ce que Marc nous en dit. Et je vous invite à la lecture de ce texte qui se trouve au chapitre 2 de l'évangile de Marc, les 13 premiers versets. Quelques jours après, Jésus rentra ou revint à Capernaüm. Et l'on apprit qu'il était à la maison. Et tant de monde se rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par quatre hommes. Et comme ils ne pouvaient l'amener jusqu'à lui à cause de la foule, ils ont découvert le toit au-dessus de l'endroit où il était. Et faisant une ouverture, ils descendent le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Quelques scribes étaient assis et raisonnaient en leur cœur, « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Connaissant aussitôt en son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous ces raisonnements en vos cœurs? Qu'y a-t-il de plus facile de dire au paralysé, « Tes péchés sont pardonnés ?» ou bien de dire « Lève-toi, prends ton brancard et marche », eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il dit au paralysé « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et va dans ta maison ». L'homme se leva, il prit aussitôt son brancard et il sortit devant tout le monde, si bien que tous étaient bouleversés et rendaient gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Nous sommes au tout début du ministère de Jésus. Si nous poursuivons le texte, nous voyons qu'il n'a même pas encore constitué complètement son équipe, puisque dans les versets qui suivent, c'est l'appel de Matthieu, l'appel de Lévi. Quand on parcourt cet évangile, on se rend compte que Jésus se retrouve assez souvent dans Capernaüm. Il a ses points de chute, comme il aura plus tard son point de chute à Béthanie lorsqu'il sera près de Jérusalem. C'est en quelque sorte son lieu, c'est sa maison d'hôte, et beaucoup pensent que la maison dont il est question ici est tout simplement la maison de Pierre. Si on poursuit la réflexion et la lecture du texte et du contexte, on voit que sa renommée est en train de grandir. Il n'y a pas encore véritablement d'opposition de la part des responsables religieux, cela viendra plus tard. Sa renommée grandit. Avec comme conséquence, les foules deviennent de plus en plus présentes, de plus en plus nombreuses. Et on le voit dans ce texte et dans d'autres que les foules occupent souvent dans l'Évangile une place importante. Et la foule est à la fois un obstacle et en même temps une richesse. Et on le voit dans le texte ici présent, la foule va constituer un obstacle puisque à cause de cette foule, les quatre amis vont avoir de la peine à s'approcher de Jésus. Quelle va être notre démarche par rapport à ce texte? On va essayer de le faire parler et peut-être de nous arrêter sur des silences. C'est toujours très dangereux quand on prend un texte et de parler de ce que le texte ne dit pas. Et pourtant, on va le faire. On va essayer de le faire en tout cas. C'est dangereux parce qu'on pourrait faire dire au texte des choses que manifestement il ne veut pas nous dire. Donc j'espère que notre réflexion sera conduite avec prudence et avec sagesse. Nous allons nous arrêter sur quatre points. Message bien structuré. Nous allons nous arrêter sur quatre points et dans un premier temps, essayer de voir ce que le texte nous permet de découvrir sur ces quatre amis. Ensuite, nous allons nous interroger sur le paralysé lui-même, qui est quand même au centre de ce texte. Ensuite, nous verrons et nous nous questionnerons sur la parole de Jésus. C'est assez surprenant puisque avant de guérir, Jésus va lui dire « Tes péchés sont pardonnés ». Et puis dans un quatrième temps, nous essaierons de mettre en œuvre ce texte, en tirer un certain nombre d'applications pratiques. Et si vous écoutez bien, vous allez vous rendre compte tout au cours de notre réflexion que ce texte nous pousse à pas mal de conclusions très concrètes et très pratiques. Tout d'abord, les quatre amis. On ne sait rien d'eux. Leur nom n'est pas mentionné, on ne sait pas s'ils habitent Capernaum, on ne sait pas s'ils viennent d'un autre village, on ne sait rien d'eux, sauf que leur ami paralysé leur tient à cœur. Et que manifestement, dans l'attitude qui va être la leur tout au long de ce récit, ils refusent de l'abandonner à sa triste condition, à son triste sort. Manifestement, ils ne sont pas indifférents à sa situation dramatique. Et on peut imaginer qu'ils l'aident au quotidien de différentes façons et ils vont l'aider d'une manière encore plus évidente dans le récit qui est devant nous. Pourrait-on dire qu'une des premières caractéristiques de ces quatre amis, c'est l'amour et la compassion. Ils ont entendu parler de Jésus. Jésus est dans leur ville et ils se rendent compte que pour eux-mêmes et pour leur ami, c'est peut-être une excellente occasion à saisir. Pourquoi pas ? Peut-être, et là encore une fois le texte ne le dit pas, mais peut-être ont-ils déjà essayé par toutes sortes de moyens d'aider leur ami à guérir, peut-être sont-ils même allés voir des guérisseurs sans aucun succès, et ils ont entendu que Jésus guérissait justement, peut-être sont-ils en train de se dire, peut-être lui est-il un meilleur guérisseur que les autres. Alors pourquoi pas ? Deuxième caractéristique de leur démarche, manifestement, ou de leur attitude, manifestement, c'est une démarche de foi. Ils croient que Jésus pourrait. Ils croient que Jésus pourrait quelque chose pour leur ami. Et on le voit, cette foi va d'ailleurs les conduire à renverser ou à franchir un certain nombre d'obstacles. Et cette foi, d'ailleurs, va être reconnue par Jésus. Nous l'avons vu dans le texte, Jésus admire leur foi. Et ayant entendu parler de Jésus qui est dans la maison probablement de Simon, ils vont se mettre en route. Peut-être portent-ils leur compagnon, leur ami sur leur dos, le texte ne dit rien. Peut-être ont-ils en effet un brancard, le texte ne le dit pas non plus. Sauf simplement que si on prend le texte de Luc et le texte de Marc, on se rend compte que le moyen de le transporter n'est pas le même puisque Marc parlera d'un grabat. Un peu comme s'il voulait accentuer la misère de cet homme, Luc, et ça me semble plus logique, parlera plutôt d'une civière. Mais laissons ce petit détail linguistique de côté, peut-être a-t-il son importance. Ils se mettent en route, et lorsqu'ils arrivent devant la maison, la foule est là. Et la foule, c'est quelque chose de difficile à franchir. Vous avez peut-être déjà un jour fait l'expérience, il y a un événement qui se passe, les gens se sont agglutinés et vous essayez de voir ce qui se passe. Alors quand vous êtes seul, excusez-moi s'il vous plaît, pardon, il y a peut-être moyen d'y arriver. Mais quand on porte un bonhomme sur un brancard et qu'on est à quatre, imaginez, la foule, c'est l'obstacle infranchissable. Ce qui caractérise ces quatre amis, c'est que la foule ne va pas les arrêter. Nous l'avons vu, c'est l'amour, la compassion, c'est la foi, c'est la persévérance. La foule ne les arrête pas. Ils auraient pu se dire, à quoi bon ? Il y a trop de monde, on n'y arrivera pas. Non, ils franchissent cet obstacle. Et quatrième caractéristique, c'est leur audace. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils observent les lieux et ils se rendent compte que franchir cette foule, essayer de la faire bouger, c'est impossible. Ils n'arriveront pas au pied de Jésus. Donc ils vont monter sur le toit. Et à l'époque, c'était des maisons avec des toits en terrasse. Ils vont monter sur le toit. Peut-être qu'entre-temps, ils sont allés chercher des cordes. Ils ont regardé un peu la situation. Ils se sont dit, voilà, on est sur le toit et Jésus est en dessous. Comment faire descendre notre ami? Et puis, je ne sais pas si Pierre était content. Je pense qu'il ne devait pas l'être trop. Ils vont écarter les bois, écarter les branches et faire descendre leur ami au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Intéressant. Parce qu'on découvre dans ces simples mots qu'ils ont fait manifestement tout ce qu'ils pouvaient. Ils ne feront rien de plus. Ils ont amené l'ami, ils l'ont fait descendre au pied de Jésus. La balle maintenant, si on peut dire, est dans les mains du Christ. Va-t-il se laisser émouvoir? Va-t-il faire quelque chose? Eux, en tout cas, en tant qu'amis, ont fait totalement et entièrement leur part. Deuxième élément dans ce texte, c'est le paralysé. Alors, si on ne sait pas grand-chose des amis, on en sait encore moins du paralysé. On ne sait rien de lui, absolument rien, sauf qu'il est paralysé. Depuis quand? Suite à quel accident? Est-ce que lorsque l'accident eut lieu, ses amis étaient avec lui? On n'en sait rien, le texte ne le dit pas, mais nous laisse peut-être, là je fais dire au texte ce qu'il ne dit peut-être pas, mais là, bon, mais peut-être que le texte nous suggère que cet homme n'accepte pas, n'a pas accepté et n'accepte pas sa situation. Vous verrez pourquoi dans un instant. On a l'impression que cet homme paralysé, que sa paralysie n'est pas simplement une paralysie physique du corps, mais qu'il y a en lui d'autres paralysies. On a l'impression que l'on est en présence d'un homme qui est entièrement refermé dans sa souffrance. Peut-être a-t-il prié pour être guéri. Peut-être a-t-il supplié. Et le ciel est resté fermé et silencieux, et la guérison tant attendue, tant espérée n'est pas venue. Et on peut imaginer chez cet homme que cette situation s'est transformée progressivement en souffrance, en révolte. On a l'impression qu'il y a chez lui comme une fermeture, comme une résignation, comme une révolte. Il n'est pas seulement en souffrance dans son corps, mais manifestement, il l'est aussi dans son âme. Peut-être même que lorsque ses amis lui ont dit « Jésus est là, on va te conduire à lui et peut-être que lui peut te guérir », peut-être même qu'il s'est opposé à eux. Quand on est paralysé, vous savez, on ne peut pas faire grand-chose. Si vos copains décident de vous mettre à tel endroit, ben vous êtes paralysé, vous ne pouvez pas dire « c'est pas possible ». Ses amis ne sont pas satisfaits de cette révolte qui est en lui, ils vont passer outre. Et qu'est-ce qui me permet ou qu'est-ce qui nous permettrait de dire cela? Troisième élément, l'attitude de Jésus. Dans un premier temps, il reconnaît et il admire la foi des quatre amis. Le texte dit il admira leur foi. J'ai l'impression que ce n'est pas la foi des cinq. Je pense que c'est la foi des quatre. C'est la foi des quatre compagnons qui ont eu la compassion, l'audace, la persévérance, la foi pour amener leur ami au pied de Jésus. Rien n'est dit de la foi du paralysé, alors que dans d'autres textes, on voit que la foi de celui qui demande à être guéri joue un rôle important. On a l'impression que cet homme ne demande rien. Et ce qui surprend, c'est que Jésus, au lieu de lui dire « Lève-toi et marche », va lui dire « Tes péchés sont pardonnés ». Il n'y a pas beaucoup de récits de miracles accomplis par Jésus où il y a cette notion de pardon et de guérison. Bien sûr, on aura très souvent « Ta foi t'a sauvé », mais il faut être conscient qu'en grec, le terme utilisé est un terme qui peut à la fois signifier sauver, qui peut en même temps signifier être guéri. Et bien souvent, nous devrions traduire plutôt ta foi t'a guéri plutôt que ta foi t'a sauvé. Ces paroles, me semble-t-il, devraient nous questionner, nous interpeller. qu'est-ce qui se cache derrière ce geste de pardon? Est-ce que Jésus, lorsque cet homme est à ses pieds, est-ce que Jésus verrait plus loin que la seule attente légitime de le remettre debout, de lui rendre la capacité de marcher et de rentrer chez lui? On a un peu l'impression dans ce texte que la guérison va se faire en deux tableaux, en deux temps. Il y a tout d'abord les guérisons de la blessure de l'âme, de cet homme qui est fermé, qui est en révolte. Peut-être a-t-il dit ces paroles que la femme de Job va lui dire, « Maudit Dieu et meurt », peut-être, peut-être. En tout cas, il y a une dureté de l'âme, il y a une dureté du cœur qui a besoin d'entendre cette parole, « Tes péchés sont pardonnés ». Et dans un deuxième temps, il y aura la guérison des blessures du corps. Et ça nous interpelle, me semble-t-il. Combien de souffrances du corps sont liées à des souffrances de l'âme? Le corps est malade. Le corps est en quelque sorte paralysé parce qu'il y a des blessures qui ne se sont pas cicatrisées. Il y a des blessures qui n'ont pas été guéries. Extraordinaire de la part de Jésus qui manifestement voit plus loin que l'apparence et propose à cet homme une guérison totale. Guérison de l'être profond et guérison du corps. On découvre dans ce texte Jésus le médecin. Mais le médecin qui ne se contente pas de donner quelques médicaments, mais du médecin qui prend soin de la totalité de la personne qui est en face de lui. Il ne se contente pas de donner quelques médicaments parce qu'on vient à lui, parce qu'on a la migraine, mais il essaye de découvrir pourquoi on a la migraine. Attitude étonnante de Jésus qui nous interpelle, qui nous questionne et qui va nous poser une question, ce sera dans le quatrième temps de cette méditation. Je laisse de côté l'attitude des religieux qui vont dire « il blasphème, il n'a pas le droit, seul Dieu peut pardonner », ça nous entraînerait trop loin et je voudrais que l'on s'arrête et qu'on prenne le temps de s'arrêter finalement au quatrième point qui est la mise en œuvre de ce texte. Qu'est-ce que ce texte nous invite à découvrir, à mettre en pratique de manière concrète? Et là encore, je verrai deux temps. Il y a d'abord ce que nous disent les amis et puis ce que nous révèlent les paroles du Christ qui dit « Tes péchés te sont pardonnés » avant de lui dire « Lève-toi, prends ton grabat, prends ta civière et marche ». Les amis, tout d'abord, important, ils portent à Jésus quelqu'un qui est incapable de s'en approcher par lui-même. Ils portent à Jésus quelqu'un qui est incapable de s'en approcher par lui-même. Peut-être là, dans l'attitude de ces quatre hommes, une image saisissante de ce qu'est ou de ce que devrait être la prière. La prière qui a pour objectif de déposer aux pieds de Jésus des personnes qui ne sont pas ou des personnes qui ne sont plus capables de s'en approcher par elles-mêmes. Parce qu'il y a en elles des souffrances, parce qu'il y a en elles des blocages, parce qu'il y a en elles des fermetures, des révoltes, des blessures. Et j'aimerais ici dire quelques mots de mon cheminement. C'est un texte qui était déjà présent avant que je fasse mon infarct, mais ce récit a pris une force extraordinaire dans les heures et dans les jours qui ont suivi cet incident. Parce que j'ai été bouleversé de découvrir que je n'étais pas porté par quatre amis, mais par des dizaines. Des dizaines de personnes qui, de manière ou d'autre, à travers un téléphone, à travers un SMS, à travers un courrier, des dizaines de personnes qui ont littéralement saturé le téléphone à la maison pour dire combien elles étaient en communion de pensée avec ce que j'étais en train de vivre, en communion de prière et en affection. Et j'ai trouvé là cette dimension de compassion, cette dimension d'amour. Je n'étais pas pour moi-même à ce moment-là dans l'incapacité de prier, mais ma prière était littéralement portée par la prière des autres. Nous avons un ministère de prière, chacun, chacune. Nous avons un ministère de prière, nous avons une responsabilité, et tout particulièrement de prier pour ceux qui ne sont plus capables de le faire, pour de multiples raisons. S'ils ne sont plus capables de prier parce qu'ils sont dans une situation de souffrance, de révolte, d'abandon, de rejet, nous avons, nous, la responsabilité d'être ces amis qui les portent et qui les conduisent au pied du Christ. Pas plus. Nous les déposons au pied du Christ. L'œuvre du Christ, c'est la sienne. Ce que le Christ fera de cette prière ne nous concerne pas, c'est l'œuvre du Christ. Et il me semble que il y a des choses à retirer de l'attitude de ces quatre amis. L'amour et la compassion, la foi, la persévérance et l'audace. Ça nous questionne dans notre vie de prière. Jusqu'où va notre amour pour celui pour qui nous prions ? Ah, c'est facile de prier pour des amis, mais le Christ nous invite même à prier pour nos ennemis. Est-ce que je suis prêt à avoir cette démarche de compassion pour ceux qui me font du tort, pour ceux qui me font du mal, à moi ou à d'autres ? Est-ce que j'en ai cette capacité ? Démarche de foi dans ma prière, de savoir que Dieu est souverain et qu'il peut intervenir. Je ne dirais pas qu'il va intervenir, mais qu'il peut intervenir. Notre foi va jusque-là en confiant la personne à Dieu et en sachant que si la guérison ou si la réponse n'est pas toujours selon nos attentes, il y a quand même un travail en profondeur qui est en train de se faire. Qu'est-ce qui est plus facile ? Tes péchés te sont pardonnés ? Ou de dire « lève-toi et marche » ? Il y a quand même si cet homme ne s'était pas relevé, même si ça n'avait pas marché, il y avait une guérison de l'âme qui avait été accomplie par le Christ. Persévérance, troisième caractéristique de ses amis, persévérance. Et là, alors, là, j'en prends plein la tête. Prions cette semaine pour un tel ou une telle. Ouais, ben, je le fais lundi, je le fais mardi. Mercredi, c'est déjà un peu plus difficile. Jeudi, n'en parlons pas. Et puis, il faut un petit rappel pour que quand même vendredi, j'y pense. La persévérance dans la prière. Caractéristiques de ces amis qui vont franchir tous les obstacles pour aller avec leur ami jusqu'au pied de Jésus. Et parfois, on lit des livres sur la prière et on y découvre quelqu'un qui a prié pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans pour un sujet bien particulier et qui, au bout de la 30e année, n'a pas obtenu de réponse et qui pourtant continue à prier. Et dans d'autres cas, après 10 ans, 20 ans, 30 ans, le Seigneur est intervenu de manière étonnante. Quatrième caractéristique de ses amis et qui nous interpelle dans notre manière de prier, c'est l'audace. L'audace, cette capacité de vaincre les obstacles, de vaincre les résistances, de vaincre les non-réponses, de vaincre les fermetures et peut-être même la fermeture de celui ou de celle pour qui on prie, mais d'avoir l'audace d'aller plus loin et de continuer envers et contre tout avec ce souci premier et cet objectif premier de le déposer au pied du Christ. Mais il me semble que ce texte nous pose encore une ultime question, et c'est par là que je vais terminer. Ce sera mon dernier point. Il nous interpelle sur le contenu de nos prières. Et on voit dans ce texte qu'avant de guérir, Jésus pardonne. Et je me dis, est-ce que bien souvent, est-ce que trop souvent peut-être, nos prières ne se limitent pas à la satisfaction de besoins matériels ? On prie pour le travail de l'un, de l'autre. On prie pour la santé de l'un, de l'autre. On prie éventuellement pour la vie affective d'une personne, d'un couple. On prie pour les finances. Toute prière parfaitement légitime. Jésus, dans sa prière, nous dira... Donne-nous notre pain de ce jour. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre forme de prière, un autre contenu de prière que nous sommes invité à découvrir. Combien dans nos prières avons-nous véritablement et authentiquement le souci du bien-être spirituel de celui ou de celle pour qui nous prions? Combien nos prières ont-elles comme objectif la croissance, la maturité spirituelle de celui ou de celle pour qui l'on prie? Et j'aimerais le faire simplement à travers deux prières. Quand on parcourt les épîtres, les lettres de Paul, on découvre que il parle pas souvent, il ne prie pas souvent pour des besoins matériels. Ça existe. Mais la majorité des prières que nous retrouvons dans les épîtres sont des prières qui visent au bien-être, au développement spirituel des personnes pour qui il prie. Et je prendrai simplement deux prières. Et oh, combien j'aimerais que cette prière ou que ces prières soient beaucoup plus présentes en moi-même lorsque je prie pour les autres, lorsque je prie pour vous, et vous lorsque vous priez pour moi. L'apôtre Paul le dit dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er, au verset 15. Voilà pourquoi, moi aussi, depuis que j'ai appris votre foi dans le Seigneur Jésus et votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à votre sujet lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Point. Non. Non, parce que c'est formidable. Il nous donne le contenu de sa prière. Et voilà ce qu'il demande pour ces chrétiens d'Éphèse et pour nous aussi, enfin pour l'ensemble de ceux à qui il s'adresse, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père à qui appartient la gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre votre cœur à sa lumière pour que vous sachiez quelle espérance vous donne son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de l'héritage qu'il pouvait partager avec les saints, quelle immense puissance il a déployée en notre faveur, à nous, les croyants. Bref. Il faudrait presque apprendre cette prière par cœur. Il faudrait presque apprendre cette prière par cœur et lorsque nous prions les uns pour les autres, la mettre presque au centre de notre prière. Prions pour la santé, prions pour les autres questions. C'est légitime. Mais si nous avions vraiment comme souci et comme objectif que tous ceux pour qui nous prions grandissent dans leur connaissance et dans leur amour du Christ, je crois qu'il y a pas mal de choses qui changeraient en nous-mêmes et puis peut-être en ceux pour qui nous prions. Il continue au chapitre 3. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille tient son nom au ciel et sur la terre, qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Hein, l'homme intérieur, ça occupe une place importante dans l'Écriture. Il n'y a pas simplement l'extérieur, l'enveloppe, le corps. Il y a cet homme intérieur qui doit être renouvelé, qui doit être transformé, pour que se renouvelle et que se fortifie en vous l'homme intérieur. Et la suite est extraordinaire, qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi. Enraciné, fondé dans l'amour, vous aurez ainsi la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. Un petit texte. Un petit récit qui nous parle de quatre amis, mais un texte qui ouvre tellement d'ouvertures, tellement de possibilités, tellement d'invitations à renouveler ou à modifier notre vie de prière. Seigneur, merci pour cette parole. Amen.